9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Éléonore Guay.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter à France Télévisions. Vous êtes une ancienne de l'équipe d'Envoyé spécial ou encore du 20h. Je donne votre pédigré. Vous êtes également directrice adjointe de la rédaction de France Télévisions. Et vous incarnez, vous présentez nous, les Européens. C'est sur France 3, magazine diffusé tous les dimanches à 10h45 sur la troisième chaîne. Donc, nous vous recevons alors que lundi prochain, le 9 mai, ce sera la journée de l'Europe, mais pour vous, c'est toutes les semaines la journée de l'Europe.
Pour nous, c'est l'année de l'Europe, pour moi, depuis le mois de septembre en tout cas, c'est clair.
Alors, comment est né ce magazine? Et c'est un peu la même question, quel est son concept?
Alors, c'est un magazine qui est né après la fin d'un précédent magazine sur l'Europe qui existait sur France 3. Et il y a une nouvelle formule qui a été mise en place, qui était présentée auparavant par Francis Letellier. Mmh. Et donc, moi, je suis arrivée au début de cette saison, de la saison 2021-22, avec l'idée de se dire, on va partir davantage à l'étranger, on va aller davantage sur le terrain, montrer ce qu'est l'Europe dans nos reportages, c'est ce qui se faisait auparavant, mais aussi dans nos plateaux, pour aller vraiment rencontrer les gens.
Vous êtes sur place. Voilà. Comment est construit chaque numéro?
Alors, on part de l'idée d'un reportage, parfois. Tous nos reportages sont faits à l'étranger. Et le concept, c'est vraiment de rendre l'Europe intéressante, accessible et, si je peux dire, sexy.
Comme ça qu'on dit dans les rédactions, on dit faut que ce soit sexy.
Faut que ce soit sexy. Ce soit sexy, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver des sujets qu'on n'a pas vus ailleurs. Et notre prisme, c'est quand même un petit peu d'aller voir ce qui se fait de bien, de différent, de très innovant, ou des choses qui peuvent faire débat par rapport à la France, parce que bon, on est une émission diffusée en France, mais on a aussi évidemment une résonance par rapport à l'actu, c'est très très important, surtout cette année.
Alors un exemple, dans le prochain numéro qui sera diffusé dimanche, vous êtes rendu en Hongrie. Et là, curiosité, c'est le pays européen le plus eurosceptique de l'Union européenne. C'est un choix ou c'est un hasard de programmation? Vous avez fait exprès?
Alors en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est le gouvernement qui est eurosceptique, mais la population, elle, d'après un récent sondage, elle l'est beaucoup moins. Il faut dire que l'Europe les aide. Hein. La Hongrie, c'est un des pays qui touche le plus de financement européen pour ses routes, ses écoles, plein de programmes, etc. Mais il se trouve qu'elle a un gouvernement très très eurosceptique. Donc nous, on s'est dit, on va aller voir parce que c'est un petit peu le caillou dans la chaussure de l'Europe, ou certains disent le mouton noir.
Ouais. Un gouvernement très eurosceptique, mais qui prend quand même l'argent et les subventions.
Qui prend l'argent. Alors,
eurosceptique au point de les rejeter.
Non, et qui a d'ailleurs un petit bras de fer là, parce que l'Europe a dit, là maintenant, ça fait longtemps qu'on a des soucis avec vous. Hein. Donc cette fois-ci, vraiment, si jamais vous ne changez pas 2-3 trucs, on ne va plus vous donner l'argent, on ne va pas vous donner l'argent du plan de relance.
Justement, l'argent, c'est au cœur de ce sujet autour de la politique de natalité en Hongrie. L'État hongrois est très généreux avec les familles nombreuses. Plus il y a d'enfants, plus le chèque est gros. Vous avez rencontré une famille de 5 enfants, ça fait du monde. Alors déjà, ils ont dû faire des travaux dans leur maison pour pousser les murs. Ils ont reçu une aide de 16 500 euros pour cela. Mais ce n'est pas tout. Ils sont tout fiers de présenter à votre caméra leur tout nouveau monospace.
Là derrière, il y a 2 autres sièges. Elle est grande.
Un modèle spacieux, avec à l'intérieur 7 places. C'est la condition pour profiter d'une nouvelle subvention.
Pour cette voiture, on a reçu une super aide. 7000 euros. Il fallait juste que le modèle en coûte plus de 14 000. Je pense qu'on a fait une bonne affaire.
Aide à l'achat de monospace, participation aux frais des travaux, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'elle a donné naissance à plus de 3 enfants, Cataline, la maman, est aussi exonérée d'impôts à vie.
Plus d'impôts à vie, 16 500 euros pour les travaux, 7 000 pour la voiture. Vous avez vu un autre couple qui a reçu 30 000 euros d'aide pour acheter une maison et accueillir leur troisième enfant. Pour le coup, est-ce que cette politique est un succès?
Alors, c'est un succès dans le sens où...
Est-ce que les Hongrois se mettent à faire davantage d'enfants que ce qui aurait pu être prévu?
D'après les dernières statistiques, il y a peut-être un peu plus de naissances que ce qu'il aurait pu en avoir sans cette politique. Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il y a derrière, c'est que la Hongrie perd des habitants, ils s'exilent parce que la situation économique n'était pas brillante.
Beaucoup de pays.
Beaucoup d'habitants s'en vont. Et la Hongrie ne veut pas d'immigrés. Donc en fait, c'est ça, tout le truc de cette politique qui sur le papier, est sympa. Parce qu'on se dit, quand on est une famille de la classe moyenne, des aides comme celle-là, franchement, c'est pas mal, quoi. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a vraiment une vision nationaliste de la société, on ne veut pas d'immigrés. Et il y a aussi une vision ultra conservatrice, parce que on n'encourage pas les femmes à aller travailler, ça c'est clair. Et c'est ce qui fait que, par exemple, à l'automne dernier, il y a eu un rassemblement en Hongrie pour parler notamment de cette politique, à laquelle étaient présents tous les représentants mondiaux de l'ultra-droite, des droites nationalistes, souverainistes, etc. Et Marion Maréchal Le Pen. Il y avait Éric Zemmour, il y avait Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est quelque chose qui inspire l'ultra-droite, les extrêmes droites aujourd'hui.
On n'a pas encore tout dit sur la Hongrie, ni évidemment sur l'Europe. Éléonore Guay est avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Éléonore Guay, présente tous les dimanches à 10h45 sur France 3, Nous les Européens, on parle d'Europe. C'est une émission, elle existait déjà, une émission européenne sur France 3. Il y avait des sujets évidemment à l'étranger, mais les plateaux étaient faits à Paris. Là, vous allez sur place, on vous voit en Hongrie, dans le centre-ville de Budapest, absolument somptueux, une place très très belle. Hein.
C'est très beau.
Voilà, il n'y a pas de saccage Budapest. Et en revanche, il y a des choses et des critiques qui sont faites. On parlait de Viktor Orban, le chef de l'État hongrois, qui doit sa victoire à son ancrage dans les zones rurales, qu'il arrose d'aide et d'emplois publics. Illustration, vous êtes allé dans le village de Tiszabora, 3000 habitants, où Orban et son parti, le Fidesz, ont réalisé 95% des suffrages, suffrages soviétiques. Vous avez interrogé le maire de la commune qui vous explique les raisons d'un tel succès.
Vous savez, il y a 20 ans, le Fidesz a fait sa révolution. Il a décidé d'investir les campagnes. Il ne s'est plus présenté comme un parti traditionnel, mais comme un groupement d'associations proches du terrain et des gens. Et pendant que les autres formations politiques perdaient leur base électorale, en milieu rural, le Fidesz s'est enraciné dans les campagnes. À mon avis, ce qui explique le succès du Fidesz, qui séduit 2/3 des électeurs à la campagne, c'est sa bonne gouvernance, mais surtout cet enracinement dans les campagnes.
Des formations politiques qui perdent leur base électorale dans les campagnes au profit de l'extrême droite d'Orban. Est-ce que la Hongrie est un miroir grossissant de ce qui se passe et ce qui peut se passer en France ?
Alors, il y a des choses qui sont très différentes en Hongrie. La première, c'est que quand Orban est arrivé au pouvoir en 2010, il a changé plein de choses dans la Constitution, dans le découpage des circonscriptions électorales. Après, il y a eu cette politique d'emploi public qui... On arrose, hein, le village où on tourne, il y a eu jusqu'à 600 emplois publics pour un village de 3000 habitants. Alors, c'est pas cher payé, les emplois publics.
Ah oui.
Mais enfin, c'est mieux que rien. Donc ça a beaucoup contribué à sa popularité. Puis il y a autre chose aussi. Là-bas, l'opposition, pendant toute la campagne des dernières législatives, a eu droit en tout et pour tout à 5 minutes d'antenne sur la télévision publique.
Comment ça se fait ?
Parce que la télévision publique, les médias publics ont été totalement asservis par Orban dès son arrivée en 2010. Mais c'est explicite, hein, c'est pas du tout. C'est une politique très claire. Donc, les rédactions se font dicter ce qu'elles ont le droit de dire, de ne pas dire, les images qu'elles peuvent montrer ou non. Et tous les médias privés ont été petit à petit grignotés par des proches d'Orban, des oligarques du pouvoir hongrois qui ont été mis à cette place. Et pour les autres qui essayent de survivre à peu près normalement et de faire leur boulot de journaliste, en fait, il y a des pressions économiques, des pressions également de type harcèlement en ligne pour les journalistes. Donc, on considère aujourd'hui, c'est RSF qui l'a dit il y a quelques jours, là, leur rapport vient de sortir, qu'il y a 80% des médias en Hongrie qui sont contrôlés par le Fidesz, le parti de Viktor Orban.
Donc justement, ces choses-là vont peut-être changer. C'est peut-être l'Europe qui va faire changer les conditions d'exercice de la presse en Hongrie. Une partie de votre émission est consacrée à cette loi qui a été votée l'an dernier, qui interdit la représentation, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Absurdité totale, vous êtes rendu dans une librairie où il y a un conte pour enfants avec deux princes, et non pas un prince et une princesse. Ce conte se retrouve sous plastique, impossible de l'ouvrir et doit être vendu à plus de 200 mètres d'une école. Donc ça, c'est pas une légende, vous l'avez
dit. Et d'une église.
Et d'une église, j'avais oublié l'église. Comment ça se passe ? Est-ce que le libraire trouve ça normal de mettre un livre pour enfants sous blister ou est-ce qu'il le fait parce que c'est la loi ?
Il le fait parce que c'est la loi. Après, ça fait beaucoup réagir les populations parce qu'évidemment, dans la capitale, on a quand même une vision un peu plus libérale de toutes ces questions-là. Donc, de toute façon, ils le font parce que c'est la loi, ils ne peuvent pas faire autrement.
Non, mais parfois, les commerçants, on les oblige à porter un masque, ils étaient contre. Et parfois, on interdit de vendre de l'alcool aux mineurs et les commerçants sont pour. C'était le sens de ma question.
Oui, mais là, la question ne se pose pas comme ça. En fait, ils le font parce qu'ils doivent le faire. Après, il y a beaucoup de libraires qui ont considéré que c'était une mesure absurde. Et évidemment, toutes les associations de défense de la communauté LGBT plus là-bas et des droits de l'homme considèrent que c'est une absurdité parce que ce qu'il y a derrière, alors on peut trouver ça marrant ou intéressant, pas intéressant de voir un livre qui fait des contes inclusifs de cette manière, les deux princes charmants qui se marient, mais ce qu'il y a derrière, c'est de l'idéologie, en fait, qui considère que parler d'homosexualité aux mineurs, c'est mal, il ne faut pas le faire, y compris pour parler, par exemple, d'homophobie et de lutter contre l'homophobie dans les écoles, on n'a pas le droit de le faire. Et aussi, ça, c'est presque comme faire un rapprochement entre la pédophilie et l'homosexualité, donc c'est très grave.
Ça sera l'émission de dimanche. Les prochaines émissions à venir, vous irez où ?
Alors, on va tourner un petit peu en France. L'émission suivante sera sur l'éolien offshore, l'éolien en mer, qui est en train de vraiment décoller en France.
De décoller aussi, de devenir un sujet de polémique.
Et de devenir un sujet de polémique.
Les deux.
Bien sûr, mais en tout cas, les premiers chantiers, après des années de recours judiciaires notamment, sont en train de démarrer. Donc nous, on est allé voir en Écosse, en reportage, ce pays qui a 20 ans d'avance sur nous et qui est un des leaders européens de la production d'éolien, d'énergie éolienne en mer. Et aussi, on a fait des plateaux en France, évidemment, pour aller voir les endroits où ça va se développer et les opposants également.
Mais celui-ci, dimanche à 10h45 sur France 3, il sera consacré à la Hongrie. Vous étiez avec nous en direct. Merci d'avoir été là, Éléonore Guay, dans Culture Média.
Merci beaucoup. Et c'est aussi sur France 2 le jeudi soir, après Complément d'enquête.
Merci de l'avoir dit. Culture Média, ça continue. Après les infos de 10h, notre invité, c'est le chanteur-rappeur Black M. On parle de son nouveau single « Outfit ». Qui préfigure un album qui va sortir à la rentrée. On dit que ça peut déjà être le tube de l'été. On va vous le passer, comme ça vous avez décidé. Et puis il y a la tournée de Section d'Assaut qui s'est reformée et qui a démarré. Et puis dans les indispensables, on va parler d'une série et puis d'un phénomène Halo, c'est un jeu vidéo qui lui-même a inspiré une série. À tout de suite.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.